Je vous propose de poursuivre notre réflexion de ce jour concernant la centralité, l'unicité de Jésus-Christ, en lisant quelques textes bibliques qui enseignent que Jésus-Christ est l'unique sauveur, l'irremplaçable, qu'il est au cœur de toute l'histoire du salut. Nous lirons principalement quatre textes très courts, dans l'ordre chronologique de leur rédaction. Tout d'abord, la déclaration de Pierre, que l'on trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 6, à un moment où plusieurs quittent Jésus. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. Jésus dit donc aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas vous en aller aussi ?» Simon lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru, nous avons connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. » Un peu plus loin dans l'évangile de Jean, la déclaration de Jésus-Christ lui-même, répondant à Thomas, qui lui demande comment faire pour connaître le chemin. Et Jésus lui répond dans Jean 14, 6, « Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. » Plusieurs années plus tard, Jésus est mort, ressuscité, remonté au ciel. La Pentecôte a eu lieu, l'Église commence et la persécution sévit très vite, très fort. Et les apôtres sont convoqués devant le tribunal dit Sanhédrin et on leur demande de ne plus parler de cet homme. Et voici la réponse de Pierre, acte 4, 12. Jésus est celui dont l'Écriture affirme « La pierre que vous, les bâtisseurs, vous avez rejetée, est devenue la pierre principale. Le salut ne s'obtient qu'en lui. Car nulle part dans le monde entier, Dieu n'a donné aux êtres humains quelqu'un d'autre par qui nous pourrions être sauvés. » Et un dernier texte en introduction. L'exhortation importante de l'apôtre Paul à son jeune frère Timothée, 2 Timothée 2,8. Souviens-toi de Jésus-Christ, descendant de David, ressuscité d'entre les morts, comme l'enseigne la bonne nouvelle que j'annonce. Que Dieu bénisse sa parole, l'accompagne de l'œuvre de son esprit dans nos cœurs, pour qu'elle nous transforme, nous éclaire et nous aide à marcher dans la bonne direction. Reprenons maintenant ces textes en regardant d'un peu plus près le contexte de chacun d'eux et quelques points importants que l'on peut y trouver pour mieux comprendre l'Évangile et les implications concrètes pour notre façon de vivre chacune de nos journées. Premièrement, la déclaration de Pierre dans Jean 6, 68. Comme les premiers versets le font deviner, plusieurs disciples quittent Jésus. Nous sommes au tout début de l'évangile de Jean. Petite révision ou mise en situation très simple. Jean 1, on nous rappelle qui est le grand Dieu devenu homme, Jésus-Christ. Jean 2, les noces de Cana. Jean 3, l'entretien avec Nicodème, un grand érudit religieux. Jean 4, entretien avec une Samaritaine, femme méprisée, avançant tant bien que mal dans son coin. Jean 5, Jésus guérit des malades le jour du sabbat, il est fortement accusé. Jean 6, encore plusieurs miracles, la multiplication des pains, Jésus marche sur les eaux, et des temps d'enseignement lors desquels Jésus se révèle comme l'unique Messie qui devait venir. « Je suis le pain de vie, dit-il. Je descends du ciel, envoyé par mon Père. J'apporte le salut à tous ceux qui croient en moi. » Et les réactions sont très vives. Certains se régalent de l'écouter, mais un bon nombre sont fortement agacés. Par exemple, verset 41 qui va être projeté, « Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit « Moi, je suis le pain descendu du ciel ». Et ces Juifs disaient « Celui-ci n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph ? Lui dont nous connaissons le Père et la Mère, comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel ?» Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes « Ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. » Ce n'est pas que personne n'ait vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, lui a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit à la vie éternelle, moi, je suis le pain de vie. » Au moment où les opposants disent, en quelque sorte, « Mais pour qui il se prend ? N'est-il pas Jésus, le fils de Joseph, lui dont nous connaissons le Père et la Mère ? On le connaît, le petit. » Jésus redit, « Je viens du Père, je suis le pain de vie. » On pourrait dire, il en rajoute, parce que c'est important qu'ils entendent la vérité. Verset 52, « Les Juifs se querellaient entre eux et disaient, « Comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger ?» Il venait d'annoncer ce que nous avons vécu en nous souvenant de son corps donné et de son sang versé. Et devant des enseignements si difficiles à entendre, Jésus va donc mettre en avant ce choix devant les disciples. Et on peut remettre le verset qu'on a lu au début. Jésus met ce choix devant les disciples. Et vous, vous en êtes où? Que voulez-vous faire? Est-ce que vous voulez partir aussi? Et c'est dans ce contexte que l'apôtre Pierre va faire cette déclaration extrêmement juste, extrêmement importante. Mais où pourrions-nous aller d'autre? Nous avons reconnu en toi le Messie qui devait venir, l'unique, le vrai, le serviteur, celui annoncé par tous les prophètes. Il y a tout cela, et beaucoup plus, dans cette réponse de Pierre. C'est toi que tout le monde attend depuis des siècles. Il n'est pas question que nous allions ailleurs. Et devant de telles déclarations, Jésus va plusieurs fois expliquer que c'est une grâce particulière de comprendre ce qui est l'essentiel et qui ne saute pas aux yeux. Parce que beaucoup, comme Ésaïe l'avait annoncé, considéraient Jésus-Christ comme médiocre, méprisable, quelqu'un qui se prenait pour beaucoup plus qu'il n'était. Pierre l'a reconnu. Quelques temps plus tard, l'affirmation de Jésus que nous avons lue tout à l'heure et que je relis, quand il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Traduction du Semeur, « Le chemin, répondu Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie ». Que c'est beau. Très grande affirmation de Jésus dans la série des « Je suis ». Je suis le bon berger, je suis la porte, je suis la lumière. Ici, je suis le chemin, la vérité et la vie. Avec un quiproquo assez fréquent dans les dialogues entre les personnes avec qui Jésus discute, entre le sens premier et le sens figuré. Quand il parle avec la Samaritaine, il parle de boire, d'avoir soif, d'avoir de l'eau qui étanche pour toujours. Et il y a des quiproquos un peu amusants et très beaux et très solennels. Et là, Thomas lui demande comment faire pour aller là où il va, parce qu'ils ne savent pas où il va aller. Et Thomas est plutôt dans le registre concret. Mais Jésus va saisir l'occasion pour donner un enseignement imagé, mais fondamental. Je suis le chemin, la vérité et la vie. L'affirmation est tombée. Une des affirmations les plus indigestes de l'Évangile pour beaucoup d'hommes, de penseurs, de philosophes, de chercheurs. À notre époque, dites postmodernes ou à peine après, post-postmoderne, où tout est relatif et où c'est impensable d'oser enseigner qu'il y a des absolus. Et Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Extrêmement indigeste, vous en êtes conscient, je pense, je le rappelle, je vous le dis. C'est une phrase parmi les plus choquantes aux yeux de beaucoup de penseurs et de philosophes. À une époque, mais ça a souvent été vrai, où les absolus sont considérés suspects et souvent rejetés. Il en reste quand même des vérités. Ceux qui disent cela croient qu'ils existent eux, en général. Que l'univers existe. Ils croient en ce qu'ils voient, quand même. Ils ont des absolus. Mais où ils sont particulièrement fâchés, c'est quand on proclame des absolus dans le monde invisible, dans ce qui ne se vérifie pas facilement avec les instruments humains. Et tout ce qui touche en particulier Dieu, la religion et le monde qui échappe à nos yeux. Mais Jésus affirme ce que nous méditons ce matin. Oui, il est l'unique. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Troisièmement, quelques années plus tard, le témoignage des apôtres. Révision à nouveau dans le livre des Actes. Acte 1, l'ascension et la promesse du Saint-Esprit. Acte 2, le don du Saint-Esprit et la Pentecôte. Acte 3 et 4, la persécution arrive. Tout début de l'histoire de l'Église. Et ce texte que nous avons devant les yeux correspond à une réponse de Pierre devant un tribunal extrêmement impressionnant. Le texte du livre des Actes nous décrit tous les grands chefs religieux qui étaient là, et à un moment donné nous dit « et les apôtres étaient au milieu ». Et on devine que c'était extrêmement impressionnant. Mais là, Pierre va oser prendre la parole et se laisser conduire par Dieu qui l'inspire, et dire à ces personnes qui déjà lui reprochent, leur reprochent de parler de Jésus, il va, comme Jésus tout à l'heure, aller encore plus loin. Il ne va pas du tout se protéger. Il va continuer à dire, celui que vous rejetez, celui que certains rejettent, mais en fait c'est eux, au moment où Pierre parle, c'est lui la pierre principale. C'est le fameux Messie méconnaissable d'Ésaïe. Pierre répond en citant l'Ancien Testament, « Celui qui est rejeté, c'est lui, le Messie, le vrai. Difficile à reconnaître, soit, mais c'est bien lui. » Et il est encore temps de le reconnaître, de changer votre regard sur lui. Mais les chefs religieux vont souvent, dans les évangiles, hélas, être têtus. Reflet solennel, reflet inquiétant du cœur humain en général. Un mal fou a accepté de revoir leur copie. Ils peuvent voir un miracle, ils peuvent entendre des gens très simples comme Pierre parler de façon étonnante, mais d'où il sort lui? C'est ce que dit le texte, si je paraphrase. Pour dire des choses aussi fortes alors qu'il n'a pas d'instruction. Ils peuvent entendre, voir, constater tout cela. La plupart d'entre eux n'ont pas envie de changer d'avis. Et nous, comment recevons-nous cette affirmation ce matin? Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Concernant un Messie si difficile à reconnaître, affirmation si indigeste pour certains, comment recevons-nous, nous-mêmes, cette affirmation ce matin? Est-ce que nous acceptons de placer notre foi en celui qui affirme ce que l'être humain n'aime pas du tout entendre, qu'il n'y a qu'un seul chemin et que c'est lui? Je nous le souhaite. Dernier texte, l'exhortation de Paul à Timothée. Souviens-toi de Jésus-Christ, descendant de David, ressuscité d'entre les morts, comme l'enseigne la bonne nouvelle que j'annonce. Nous sommes maintenant plusieurs décennies après la naissance de l'Église, après la Pentecôte. Le flambeau commence à se passer de génération en génération et les enfants des enfants commencent à prendre position. Et à l'époque, on n'utilisait pas le terme stagiaire, mais on avait déjà un passage de relais entre des Paul et des Timothée. Les responsables d'Église forment les futurs responsables d'Église. Et quoi dire de particulièrement important quand on est l'apôtre Paul et qu'on écrit à un de ces jeunes qui prennent de leur envol et qui prennent des responsabilités dans l'Église? Quoi leur dire d'important et de fondamental? 2 Timothée 2,8. Souviens-toi de Jésus-Christ. Si ce verset ne fait pas partie de ceux que vous avez commencé à apprendre par cœur et qui vous reviennent de temps en temps, je vous propose de l'ajouter à la liste. 2 Timothée 2,8. Difficile de faire plus court en disant tant de choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, c'est lui le cœur de tout. Descendant de David, oui, il est celui qui avait été promis, il est le roi, le prophète, le sacrificateur, annoncé, le fils de David. Il est de chez nous. Il a été fait homme. Ressuscité d'entre les morts, il est victorieux, il a été crucifié, il est ressuscité, il a remporté la victoire, il nous offre le salut. C'est ce qu'enseigne la bonne nouvelle, le salut que j'annonce. Je répète, difficile de faire plus court en disant tant de choses. Si on y pense, pendant toute la semaine qui est devant nous, on a une confession de foi extrêmement courte et très riche. Souviens-toi de Jésus-Christ, descendant de David, ressuscité d'entre les morts, comme l'enseigne l'Évangile, la bonne nouvelle que j'annonce. Voilà ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Il a dit beaucoup de choses à Timothée. Mais au moment où il résume, il écrit sa deuxième lettre. Et au moment où il veut aider Timothée à se concentrer sur l'essentiel, voilà ce qu'il dit. Que pouvons-nous nous rappeler les uns aux autres? Que pouvons-nous méditer chacun tout au long de nos journées quand nous voulons nous recentrer sur l'essentiel? Souviens-toi de Jésus-Christ. Quel est notre regard à nous tous ce matin sur Jésus-Christ? C'est une des plus grandes questions qui oriente toute ma vie. Quelles sont les implications concrètes dans ma vie quotidienne, mes relations, ma vie en famille, ma vie au travail, ma vie à l'église? Bon, pour moi, ça se recoupe. Mais quand même, pour nous tous, ce sont tous des lieux de vie. Nous disons depuis le début de ce culte que Jésus-Christ est au centre. Comment ça se voit dans notre vie quotidienne? C'est ce que j'ai eu à cœur de méditer et d'amener ce matin en arrivant maintenant à l'interpellation finale. Comment ça se voit dans ma vie quotidienne, tout ce que nous disons depuis une heure environ? Jésus-Christ est l'unique. Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est l'auteur de la vie. Jésus-Christ est au centre de tout. Il est au-dessus de tout. Et non pas quoi? La science? Les grandes découvertes? Les médias? Les réseaux sociaux? Qui a le dernier mot dans ma vie? Google? Non. Mais je fais partie de ceux qui ont le réflexe Google. Je reconnais. Confesser, je ne sais pas, mais je reconnais. C'est pratique. Mais qui a le poids de la vérité dans ma vie? Je peux témoigner, comme beaucoup d'entre nous, que vraiment dans ma tête, c'est clair, c'est Jésus-Christ. Mais je termine en nous interpellant, il faut que ça se traduise concrètement dans notre façon de penser, de répondre aux grandes questions qui nous tombent dessus. Qui a le poids principal? Qui a l'autorité finale? Qu'en pense Jésus? Que dit l'Écriture? Un beau slogan de notre union d'Église. Que dit l'Écriture? La science a trouvé cela, la pensée courante dit cela, Internet diffuse beaucoup que... Mais qu'en pense Jésus-Christ? C'est lui mon socle, c'est lui mon repère, c'est lui la vérité. Impact aussi dans nos relations, je viens de parler d'autorité, si j'applique dans ma vie que Jésus-Christ est l'autorité, je regarderai différemment les autres autorités. Dans l'Église, puisqu'on est là ce matin, dans la famille, dans la rue, dans mon entreprise, dans la société. Si j'ai vraiment conscience que Jésus-Christ est au-dessus de tout, je vais regarder différemment le fonctionnement d'une Église, par exemple, et de l'autorité dans l'Église. Puisque c'est lui la tête. C'est pas le conseil le plus organisé possible, le plus expérimenté possible. Faisons de notre mieux quand nous sommes concernés. Mais tout ce que nous méditons ce matin doit orienter notre conception de l'Église, notre conception de la famille, notre conception de la vie au travail, notre conception des relations dans notre rue, dans notre village. Au-dessus de nous tous, il y a celui qui est unique. Et au cœur de mon salut et de ma vie et de ma pensée, il y a Jésus-Christ. Que Dieu nous aide à continuer à méditer ce que nous affirmons depuis longtemps pour beaucoup d'entre nous, ce que nous découvrons peut-être pour d'autres ici dans cette salle, mais qui doit avoir un impact concret dans notre façon de vivre, de regarder les autres, de nous comporter, de rechercher nos repères et de construire notre pensée à la recherche de la vérité. Souviens-toi de Jésus-Christ, descendant de David, ressuscité d'entre les morts, comme l'enseigne la bonne nouvelle que j'annonce. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour tout ce qui nous conduit vers la lumière, vers la vérité, vers la justice, vers toi. Aide-nous à accueillir cette vérité. Renouvelle en nous la soif de ta parole pour la lire, la méditer et toujours y revenir. Et continue à nous transformer pour que cette vérité ait un impact très concret dans notre façon de parler, de nous comporter, de regarder, d'agir, de prévoir, de réagir tout au long de nos journées. Oui Seigneur, je veux apprendre de plus en plus à te laisser diriger ma vie et à vivre en acceptant que tu sois au cœur, au centre de toute ma vie. Merci parce que tu as tout accompli et parce que nous pouvons tous ensemble regarder à toi maintenant. Nous voulons nous souvenir de toi. Amen.